7h14. Alors, tu nous parles des psys et des assurances.
Oui, parce que j'ai eu une discussion avec une psy cette semaine et il y a justement un article dans le Journal de Montréal sur le sujet. C'est de dire, c'est bien beau parler du psy puis de la santé mentale au Québec puis comment c'est important, puis la détresse psychologique, puis c'est causé par mille choses, divorce, pression bureau, COVID-19, peu importe. La vie est complexe. Et là, on a un problème au Québec d'offre et de demande. La demande est là, on a besoin d'aide, OK? Mais manque de psy en volume. Et donc, l'offre de psy n'est pas assez grande pour la demande. Le programme est contingenté. Et tu sais ce que c'est, la machine gouvernementale. La réaction est souvent tardive pour combler le problème. Et là, on dit, pas grave, il y a un service au CLSC. Donc, tu es en détresse psychologique présentement. Tu peux avoir un service au CLSC, mais il faut que tu attendes une couple de mois. Alors là, tu tournes vers le privé. Et c'est là que le marché du psy commence. Au privé, le psy a une réalité. Il faut qu'il paye son local. Et là, on est à Montréal, on est à Chambly, on est à Valleyfield, on est à Québec. Ce sont des coûts de loyer différents. Mais il n'y en demeure pas moins que tu es un entrepreneur de la tête. Et donc, tu charges 80 à 130 $ de l'heure environ, disons. Mais là, tu te frappes à l'autre réalité. Tu dis, c'est pas grave, je vais aller au privé, mais il y a les assurances collectives. Alors, j'ai regardé un relevé d'assurance collective d'un exemple, OK? T'es couvert pour 50 minutes. Ton 50 minutes coûte 130$. Ton assurance collective dit le service vaut de l'heure 60$. Là, tu payes 130. Ton assurance collective dit ça vaut 60. Parfait. Et après ça, ils disent on va assurer 50% de ce qu'on pense que ça vaut. Et donc, le client paye 130$ net d'impôt. Évidemment, il y a un crédit pour frais de médicaux s'il arrive à avoir un gros total. Mais il reçoit 30$ de son assurance et donc ça lui coûte 100$ du 50 minutes net. Alors, regardons ça en face. Tu es à Montréal. Tu réussis à te trouver un psy pas cher, disons, à 100$ de l'heure. Tu gagnes le salaire minimum. Tu as une assurance collective si tu es chanceux, puis elle te couvre pas grand-chose. Ça veut dire que les soins psychologiques d'urgence ou de suivi à long terme, c'est de la discrimination financière, Paul. C'est ça que je voulais soulever. C'est que l'assurance... C'est une valeur actuelle nette, c'est un calcul. L'assureur offre un service, il regarde la probabilité d'utilisation, le coût, il met un ticket modérateur, c'est-à-dire il ne couvre pas pour le total du prix pour pas que tu y ailles pour le plaisir, puis souvent. Et là, on se retrouve avec un problème de santé mentale collectif et la capacité de payer.
Et donc, en même temps, aussi, oui. C'est de faire reconnaître, tu sais, parce qu'au-delà de la rencontre avec le psy, il y a les indemnités parce que tu arrêtes de travailler, tu sais, il n'y a pas que... Ça devient des enjeux complexes puis souvent des batailles avec les compagnies d'assurance.
Oui, mais en fait, c'est la même chose que dans... Je te donne un exemple. J'étais dans une usine puis dans des banques puis il y avait à l'époque... Je voyais deux réalités. C'est que t'as aussi... Les assurances se battent contre certaines personnes qui voient le système. Exemple, il y a un gars mal au genou pendant six ans de sa vie, il peut pas travailler, mais dans une équipe de curling puis de baseball. T'sais. Ça, c'est un exemple. Mais au niveau de la santé mentale, c'est dur à démontrer. Là. Est-ce que c'est ça le problème? Là. L'employé est-tu cru? Il revient à temps partiel, ça continue. C'est dur guérir une blessure psychologique. C'est très long, ça peut être des années, ça peut être une vie. Alors, c'est quoi la part de l'assureur? C'est quoi la part de l'employeur? C'est quoi la part de l'employé? Qui doit payer? Okay. Et t'as raison, c'est un gros débat. Mais, chose certaine, ça fonctionne pas financièrement présentement. Donc, on a beau parler de beaucoup, là, parler de santé mentale, faire des entrevues, belle cause pour la cause. Mais au bout du compte, si les chiffres n'égalent pas les besoins, c'est terminé.
Parle-moi d'immobilier puis oui. Des erreurs. Là, il y en a 5 que tu as identifiées qu'on peut faire.
Oui, les calculs, surtout du vendeur. Quand vous venez pour acheter de l'immobilier à revenu, c'est-à-dire commercial, semi-commercial ou simplement résidentiel, à petit volume, et que le vendeur ou le courtier immobilier vous fait une présentation de la rentabilité de l'immeuble dans un fichier Excel, il y a souvent des erreurs que j'aime soulever. La première, les revenus potentiels. J'adore ça. Ça, c'est les revenus auxquels tu pourrais louer les logements ou les locaux commerciaux s'ils étaient évalués à la bonne valeur selon le courtier. On jase, Paul. C'est justement, là, t'as un locataire qui a un bail, il est protégé. Puis ton local commercial, tu te rends compte que, ah ouais, la personne a deux options de renouvellement à prix d'amis. OK, on laisse faire le potentiel, parle-moi du réel. Deuxième point, les assurances. On donne un prix d'assurance vraiment en bas pour que les flux monétaires mensuels arrivent positifs ou juste à zéro. Mais quand tu regardes le montant inscrit, écoute, un local commercial, puis on dit que ça te coûte pas plus cher qu'une maison, des fois, c'est un peu douteux. L'autre point, les taxes foncières. On vend un immeuble en disant, écoute, l'évaluation municipale est sous-évaluée, ça vaut bien plus que ça. Mais quand tu arrives au niveau des taxes foncières, maintiennent quand même les taxes foncières actuelles. Mais là, tu dis, attends une minute, là. Si tu me dis que l'immeuble vaut deux fois plus cher que l'évaluation foncière, ça veut dire que quand je vais l'acheter, la ville va le réévaluer? Ah ouais, ouais, oui, c'est vrai, je vais changer le calcul. Après ça, sous-estimation de l'entretien, ça c'est drôle. Tu sais, on dit, t'as un immeuble des années 50, des années 20, commercial ou non, on le dit, écoute, ça va te coûter 0,1% d'entretien par année. Ben non, moins de 1%, tu me niaises, tu sais. Et là, l'autre erreur, c'est le taux d'emprunt. On te fait un calcul de rentabilité d'un immeuble sur 25 ans, mais on te met le taux le plus bas du marché au niveau hypothécaire dans l'hypothèse, le taux d'intérêt le plus faible comme on paye présentement. Mais là, on aime bien les licornes, mais ça sera pas de même à vie. Alors, le plus drôle, c'est que t'as un expert devant toi qui te parle puis qui te dit « Hey! » Il a dit « Regarde, j'ai fait des calculs scientifiques, puis là, il noie ça dans plein de chiffres. » Mais ce qu'il faut critiquer, c'est pas la méthode de calcul des fois, mais c'est le calcul lui-même. Et l'autre point, c'est qu'on te dit « Hey, sais-tu quoi? On a pris le gain de valeur de l'immobilier des 20 dernières années, puis on a fait le même calcul sur ton immobilier actuel. » Là, tu dis « Mais comment ça se fait que tu penses que ça va monter de la même façon? » Ben, c'est toujours de même. Alors, tu te retrouves finalement avec un fichier Excel qui balance dans la rentabilité selon le vendeur ou le courtier vendeur, mais quand tu refais le calcul, tu perds de l'argent à chaque mois. Mais ça, c'est écrit nulle part. Et tu te fies là-dessus. Alors, c'est ça, Paul. Il y a des erreurs volontaires pour... Tu sais, c'est comme du marketing du calcul. Alors, quand tu as une passion immobilière et une passion comptable et tu mets les deux ensemble...
Tu arrives à débusquer.
Ben surtout, tu vas t'acheter un café et tu te dis, je vais passer mon tour. Mais Paul... Joyeuse fête!
Ben, toi aussi. Hein?
Profitez-en bien, tout le monde, de notre congé forcé à la maison avec plein d'activités impossibles à faire. Je vais adorer ça.
On va rêver.
Hey, tu sais que je fais l'école à la maison depuis hier, puis là, je fais ça aujourd'hui. Là.
Puis comment ça se passe?
Hey, moi, je pensais que les profs allaient me donner... Là, j'ai des cours de musique à donner. Je donne des cours de flûte. Écoute, j'ai donné des cours d'anglais. Et puis là, j'ai deux jours de travail. Écoute, mon gars t'es découragé. Il dit, papa, il dit que... T'es là. Je dis, oui, mais je suis professeur aujourd'hui. Il dit, non, non, t'es là. Je dis, non, non, je suis professeur. Alors, on a fait ça hier. C'était bien le fun.
Monsieur le professeur, bonnes vacances. Salut. 7h21, toujours la 20.